L'actualité des Alpes du Sud, les élections présidentielles bien sûr, c'était le premier tour ce dimanche.
Et plusieurs enseignements, l'abstention de plus en plus forte dans les Alpes du Sud, deux départements qui n'ont pas suivi l'exemple français. Si Emmanuel Macron arrive en tête dans les Hautes-Alpes, il est suivi de Jean-Luc Mélenchon, alors que dans les Alpes d'Haute-Provence, c'est une vague bleu marine suivie du rouge de la France insoumise.
Le feu de La Rochette sous contrôle.
L'incendie sévissait depuis vendredi, près d'une centaine d'hectares ont été balayés par les flammes, une intervention rendue très compliquée pour les pompiers. Confronté aux rafales de vent.
DLV Aglo, la taxe va vous coûter plus cher.
Les élus ont voté vendredi soir pour le passage de la taxe sur le foncier bâti à 2%. Elle n'avait pas été touchée depuis la création de l'agglomération.
Et du côté du Ciste René Buech, eh bien on veut éviter les destructions d'emplois.
Il faut donc assurer la transmission de ces entreprises qui veulent passer la main, un travail d'ampleur qui est engagé par les CCI des deux départements.
Alpes 1, retour aux origines de la Terre et direction le musée de préhistoire des Gorges du Verdon à Quinçon.
Un musée qui avait aménagé dans les années 90 un village préhistorique, mais il avait vieilli trop. Un projet de préhistocite a donc germé. Après un an de travaux, il a été inauguré ce vendredi. Du côté du ciel, c'est doux et lumineux.
Oui, absolument. Dans une ambiance voilée et très douce, le soleil domine sur nos deux départements. Les températures maxi s'échelonnent de 16 jusqu'à 19 degrés. Les élections présidentielles ont donc donné rendez-vous aux Français ce dimanche.
Premier tour de ces élections nationales qui décideront du chef de l'Élysée pour un nouveau quinquennat. Ils étaient 128 000 électeurs dans les Alpes de Provence, 113 000 dans les Hautes-Alpes à être appelés dans les isoloirs hier. Premier enseignement, l'abstention de plus en plus forte, plus de 22% dans les Hautes-Alpes contre 19% il y a 5 ans, près de 23% dans les Alpes de Provence contre 19% en 2017. Ça reste moindre que sur le plan régional à hauteur de 26%.
Et puis second enseignement, le scénario national n'est pas suivi.
Si Emmanuel Macron arrive en tête dans l'Hexagone, suivi de la candidate du Rassemblement National, dans nos deux départements, l'exemple français n'a pas fait loi dans les Hautes-Alpes. C'est effectivement le président candidat qui arrive en tête à près de 24% des suffrages exprimés. Mais la seconde force politique du département haut-alpin est Jean-Luc Mélenchon à 22,87% devant Marine Le Pen à 22,84%. Ce sont seulement 22 voix qui départagent la France insoumise du Rassemblement national. Du côté des Alpes de Provence, deux choses sont sûres. La première, c'est qu'on ne vote pas pareil pour les élections locales que pour les nationales. Preuve en est, régionale au premier tour, c'est la liste de Renaud Muselier, liste de droite soutenue par les macronistes, qui est en tête devant celle du Rassemblement national de Thierry Mariani. Départementale, la droite d'Éliane Bareil rafle la mise devant la liste de gauche de René Massette. Mais pour les présidentielles, aussi bien en 2017 qu'en 2022, on fait table rase. Marine Le Pen arrive en tête à 26,90% des suffrages devant le rouge de Jean-Luc Mélenchon, 22,6%. Le président candidat Emmanuel Macron ferme le podium à 21,51%.
Et puis le troisième enseignement, Cyril, c'est un coup dur pour les droites départementales.
Notamment Jean-Marie Bernard, le numéro 1 des Hautes-Alpes, co-président du comité de soutien à Valérie Pécresse. Mais la candidate LR dans les suffrages départementaux ne totalise que 5% des bulletins. L'autre co président de ce comité, Roger Didier, le maire de Gap, voit sa ville donner Emmanuel Macron gagnant avec 26% des suffrages devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen dans un mouchoir de poche. La capitale douce n'a rien de tendre avec la candidate Pécresse qui parvient tout juste aux 6%. Du côté des Alpes d'Haute-Provence, on l'a dit, majorité de droite sur le siège du département. Mais Valérie Pécresse réalise là le plus faible score de la droite, 4,48%.
Et puis dernier enseignement, le paysage politique a véritablement explosé.
Si la droite de Les Républicains ne fait plus force, que dire aussi du Parti Socialiste ? Il avait connu ses heures de gloire en 2012 dans les Alpes du Sud avec la candidature de François Hollande, sortie gagnante du second tour, suivie par une rafle de la gauche sur toutes les circonscriptions de nos deux départements aux législatives. Eh bien, c'est désormais loin derrière. Anne Hidalgo ne parvient même pas aux 2% dans les Alpes du Sud, devant se contenter d'être derrière les communistes et les écologistes, et même derrière le député des Pyrénées, Jean Lassalle. Alors, si l'on veut prendre la température pour les prochaines législatives, notamment dans les Alpes de Provence, alors que la députée sortante Delphine Bagary se présente sous les couleurs d'Europe Écologie Les Verts sur la première circonscription, son candidat Yannick Jadot ne dépasse pas la barre des 4%. Quant à Christophe Castaner pour la seconde, on n'est pas dans le même cas de figure. Cependant, son candidat candidat doit se contenter de la troisième place derrière le Rassemblement National et la France Insoumise.
Et puis Cyrielle, hein, chaque élection apporte son lot de particularités.
Les communes où l'on a le moins voté, c'est Vergon et Majastre dans les Alpes-de-Haute-Provence avec 33% d'abstention. La Haute-Baume pour les Hautes-Alpes avec ses 7 votants qui ont boudé les urnes et qui ont fait grimper l'abstention à 37%. La palme du civisme revient par contre à Nossage et Bénévent dans les Hautes-Alpes où une seule personne n'a pas voté. L'abstention est à 6%. C'est identique à la Haute-Vie dans les Alpes-d'Haute-Provence, une commune d'ailleurs où l'on a le plus mis le bulletin Macron. Le président candidat arrive à 49% des suffrages. À Sorbier, dans les Hautes-Alpes, La République En Marche a même raflé la moitié des voix, ce qui n'est pas le cas d'Étoile Saint-Cyrus. Le paquet de bulletins d'Emmanuel Macron sera resté intact, pas un seul vote pour lui. Il y a aussi les communes bleues marines, à l'image de Majastre, avec presque 43% des voix pour Marine Le Pen, c'est 39% pour Monnetier-Almont. Quant au troisième homme de ces élections, Jean-Luc Mélenchon, sa terre conquise basalpine est l'immense, avec 48% des suffrages. Mais là où il marche véritablement sur l'eau, c'est à Éour, une commune dans laquelle il s'est d'ailleurs rendu durant cette campagne. 91% des voix sont allées au candidat de la France Insoumise, pas une seule par contre pour Marine Le Pen. Enfin, la commune à l'égalité parfaite dans les Alpes du Sud, c'est Le Caire qui donne Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tous deux à 29,31%.
En tout cas, l'abstention questionne toujours autant hein, sur l'état d'esprit des électeurs.
Dans le petit village de Puy-Saint-André, dans le Briançonnais, un peu moins de 400 habitants étaient appelés dans l'isoloir hier. Ce dimanche, près de 20% des électeurs ont boudé les urnes. Les réactions au micro alpin de Thibaut Durand.
Bonjour madame. Votre carte d'électeur, s'il vous plaît. Merci. 390.
À voter. Pour moi, voter, c'est choisir l'avenir qu'on veut pour notre pays, pour nos familles, pour nous. Et voilà, on a cette liberté, il faut en profiter.
C'est super important parce qu'on se rend compte avec la crise environnementale qu'on a de moins en moins de temps devant nous. Donc c'est une occasion à saisir, ouais. Et puis chacun, personnellement, on n'a pas tant de pouvoir, mais si on s'y met tous, on peut s'exprimer souverainement, ouais.
Voilà, je viens faire mon devoir de vote, parce qu'il est important de voter, surtout à l'heure actuelle, c'est notre seul droit de décision, et donc il faut absolument le maintenir.
Le droit de vote, c'est en même temps une responsabilité et en même temps un partage. C'est vraiment faire partie d'une citoyenneté et d'un ensemble d'un pays.
Ah ben je crois que c'est un des droits essentiels de la démocratie, de pouvoir s'exprimer et en connaissance de cause, hein, c'est-à-dire avoir lu les programmes des électeurs et des candidats et puis manifester son soutien ou non. Voilà.
La démocratie, ceux qui ne votent pas cautionnent la dictature.
Une des façons d'exercer sa citoyenneté.
C'est un droit, puis c'est un devoir pour moi, c'est essentiel. Et puis ce matin, je me disais, c'est quand même génial, dans la journée aujourd'hui, on peut avoir une image totale de ce que les gens ressentent sur le territoire français. Enfin, c'est génial comme truc, sauf que c'est dommage, tout le monde ne vote pas, mais c'est une occasion unique, moi, je trouve.
Le dossier des présidentielles premier tour 2022 est à retrouver sur alpin.com, ainsi que les résultats communes. Par commune.
Et feu de La Rochette, il est sous contrôle, hein, selon le SDIS des Alpes-de-Haute-Provence.
Un incendie qui a sévi depuis vendredi après-midi au lieu-dit le Grand Chêne, qui a parcouru 98 hectares de forêt de résineux, pins et mélèzes. L'intervention était rendue très compliquée pour les pompiers en raison des fortes rafales de vent, mais le vent est tombé hier sur la zone, ce qui a laissé l'espoir au service départemental d'incendie et de secours de le maîtriser avant la fin de la soirée. Près d'une centaine de pompiers étaient toujours sur place. Ils étaient épaulés par un hélicoptère bombardier d'eau Puma qui effectuait des largages. Aucune habitation ou bâtiment n'était menacé par les flammes.
D'élever Aglo, la facture sera plus salée hein, pour les habitants.
Les élus du conseil communautaire ont voté vendredi soir l'augmentation de la taxe sur le foncier bâti. Voté, mais non sans opposition, notamment celle des élus de Manosque qui ont demandé la tenue du vote à bulletin secret. Monsieur Petrini Et le président de l'impôt avec plus de 4 millions d'euros en 2 ans, écrivait sur les réseaux sociaux Camille Galtier, le maire de Manosque, à l'issue des débats. L'augmentation de 2% de la taxe foncière est une décision historique pour l'agglomération, alors que ce levier fiscal n'a jamais été touché. Il faut combler en effet un trou de 4 millions d'euros. Cette hausse permettra de faire rentrer 1 900 000 euros. Notez que le président Jean-Christophe Petrini a également annoncé lors du conseil communautaire faire appel à la Chambre régionale des comptes pour qu'elle leur viennent en aide dans les perspectives.
Et du côté du Sisteron-et-Buech, on réfléchit également, mais à l'avenir des entreprises.
Avec 9 773 emplois recensés, dont la quasi-moitié sur le bassin sisteronnais, ce territoire est soumis à une forte ruralisation du tissu économique composé majoritairement de petites entreprises. Face à ce constat, la question de la transmission ou de la reprise de ces sociétés devient un enjeu majeur. En effet, ces petits patrons rencontrent souvent des difficultés lors de cette phase et cela pourrait entraîner des pertes d'emplois. Grâce au financement de 60 000 euros de la région et du programme européen Leader, les deux CCI des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Provence, ainsi que la Chambre des métiers de l'artisanat PACA, ont une mission simple mais longue, recenser et accompagner les entreprises qui sont susceptibles de faire l'objet d'une transmission dans les années qui viennent. Ce programme d'action optimisation de la reprise d'entreprises par la préparation des cédants a été présenté vendredi à Mison lors d'un comité de pilotage. Il se divise en 3 étapes distinctes selon Franck Milias, membre du bureau de la CCI 05.
On a commencé en adressant une enquête où on a eu un bon retour de un panel de chefs d'entreprise pour inviter les entreprises à prendre attache avec la CCI. Alors, je le précise, le dispositif, il est totalement gratuit. Le dispositif, de manière synthétique, c'est un peu un audit et une synthèse de la situation de l'entreprise. On voit en quel état, à la fois économique, humain, se trouve l'entreprise. On évalue ses forces, ses faiblesses et on va passer sur une valorisation de l'entreprise. Dernier aspect, il fait partie de la mission d'identifier des repreneurs potentiels pour ces entreprises. C'est essentiel qu'on ait le support et l'appui total des élus au plan local parce que déjà c'est eux qui ont la véritable connaissance du tissu économique. Donc c'est eux qui sont le plus en capacité déjà de nous épauler dans nos démarches et deuxième aspect de nous flécher des entreprises qui sont susceptibles de relever de ce programme.
Au total, 760 entreprises ont été ciblées. 87 d'entre elles ont répondu à l'enquête de recensement qui a déjà convaincu 26 sociétés à se faire accompagner par ce dispositif. Un dispositif qui a un objectif prioritaire aussi bien à court qu'à moyen terme, éviter la fermeture de la dernière activité économique dans les communes.
Alpes 1, retour aux origines de la Terre. Direction le musée de préhistoire des Gorges du Verdon à Quinçon.
Plus de 70 000 visiteurs s'y pressent chaque année. Depuis plus de 20 ans, le musée se penche sur les modes de vie des premiers hommes. Mais avant cet espace, un village préhistorique avait été aménagé au début des années 90. Un lieu qui avait vieilli, qui ne correspondait plus aux besoins du musée et qui était de plus installé sur une zone inondable. Il y a quelques années, le projet de préhistocite a germé. Après plus d'un an de travaux, il a été inauguré vendredi. Aurore Valerie a fait pour nous une plongée dans le passé.
30 ans après la construction du village préhistorique, le préhistocite accueille donc ses premiers visiteurs. 3 hectares pour partir à la découverte de nos ancêtres et de leur habitat. Mais il a fallu traduire les données de l'archéologie, indique Caroline Luzzi, responsable de l'unité scientifique et culturelle au musée de préhistoire des Gorges du Verdon.
Généralement, c'est la pierre qui se conserve parce que le bois, le cuir, la peau, tous les matériaux organiques ne se conservent pas.
Un lieu qui se veut comme un complément au musée de préhistoire.
Dans le préhistocite, on déambule librement, gratuitement. On s'informe si on veut avec les panneaux qui sont à disposition et la visite peut s'arrêter là. Mais on peut aussi y pratiquer les gestes de la préhistoire et c'était ça un petit peu l'idée de la médiation à Quinçon dès l'ouverture du musée. C'est associer un espace théorique où bien sûr on voit des objets mais un espace avec une certaine présentation de la préhistoire et aménager un autre endroit, donc aujourd'hui c'est le préhistocite, un endroit où on va expérimenter les savoir-faire, les connaissances et préhistorique par le geste.
Une possibilité proposée aux visiteurs mais aussi aux écoliers. Chaque année, entre 10 000 et 12 000 scolaires sont accueillis par le musée. C'est le cas de la classe archéologie du collège de Riez. Elle a testé en avant-première ce préhistocite en compagnie de Natacha Jovic, enseignante en lettres classiques.
Ils apprennent donc le monde de la préhistoire, du paléolithique jusqu'au néolithique et même l'époque de bronze. Donc on est en en train de faire du tir à la saillie ce matin. L'expérience des mains, voilà, c'est quelque chose qui pour eux vont, enfin, voilà, va rester.
Allez, vas-y, lâche, faut lâcher. Ouais.
Wow.
Ce prix Istocyte représente un investissement d'1,5 million d'euros avec un financement de l'Europe dans le cadre du programme Alcotra Pitem Pache à hauteur de 852 000 euros. Le département des Alpes de Haute-Provence qui a aussi mis la main à la poche en investissant plus de 660 000 euros. Pour sa présidente Eliane Bareil, il doit contribuer à l'attractivité du territoire.
Aujourd'hui, ce site, évidemment, complète l'offre du musée de la préhistoire sur Quinçon, donc on peut y espérer un développement touristique et économique complémentaire. Il vient aussi compléter l'offre qui est faite au musée de Salagon, qui elle parle de l'habitat.
Le Préhistocyte, un équipement pour comprendre le passé et notre humanité, mais qui souhaite tout naturellement s'ancrer dans l'avenir.
Merci Aurore, un reportage à retrouver sur alpin.com.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.